Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous. Cette fois-ci, je fais une deuxième tentative. Nous avons eu quelques petits problèmes de connexion. J'ai changé entre-temps d'appareil et apparemment cela fonctionne beaucoup mieux. Donc, pardon, je m'éclaircis la voix. Voilà, vous êtes donc sur la web radio TerraZen. Et vous écoutez l'émission Histoire du soir, donc avec Olivier Burette, et ce soir, eh bien après l'émission sur l'île de Pâques qui a eu lieu, rappelez-vous, il y a un mois, puisque désormais c'est un rendez-vous quasi hebdomadaire que nous avons ensemble, quasi mensuel, pardon, nous étions intéressés d'abord à l'île de Pâques. Ce soir, c'est le mythe de Dracula, et je vous emmène au cœur de l'Europe centrale, de l'Europe orientale, puisque on va se concentrer sur un des mythes les plus fascinant de notre époque, de l'époque surtout, on le verra, on en parlera ce soir, du 19e siècle et ensuite du 20e siècle, qui est celui évidemment du vampire. Alors on va essayer de voir pourquoi, comment ces histoires de vampires ont pu apparaître, dans cette région d'Europe et plus particulièrement, on va maintenant et dans l'heure qui vient, on est ensemble. Il est 21h11 jusqu'à à peu près 22h11, puisque suite à un petit problème technique, on a démarré un peu en retard. Donc on se concentre dans un premier temps sur l'espace géographique. Alors, juste quelques rappels. Donc, je suis Olivier Burette, je suis un historien de formation, histoire des relations internationales, après avoir animé pendant un peu plus de 2 ans et demi des émissions chez Jean-Claude Carton, une émission qui s'appelait Histoire d'en parler, j'ai forgé avec Cédric ce projet d'une émission d'histoire sur la web radio TerraZen, et donc nous en sommes à la deuxième. Alors, en premier lieu, toute cette histoire, on le sait souvent, que ce soit dans les films, dans les illustrations diverses, tout cela nous plonge dans une région que l'on appelle la Transylvanie. Cette région de Transylvanie, c'est une région alpestre, avec des montagnes très très élevées souvent, qui se situe à l'ouest ce qu'on appelle aujourd'hui la Roumanie. La Roumanie, c'est un de ces pays d'Europe centrale et orientale qui se trouve au cœur de l'Europe, plutôt au sud, au sud de la Hongrie actuelle. Alors, le mythe, l'histoire qui nous intéresse ce soir autour de ce personnage du vampire. Un vampire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un non-mort. c'est-à-dire un personnage qui est condamné à errer pendant des siècles en se nourrissant du sang de ses victimes elles-mêmes qui deviennent elles-mêmes ensuite des vampires. Alors, ça, on y reviendra tout à l'heure, ce mythe du vampire qui nous fait penser à un animal qui existe, qui est un type de chauve-souris géante que l'on trouve surtout en Amérique du Sud et qui s'appelle aussi vampire, qui est une chauve-souris, chauve-souris, vous le savez, c'est un animal inoffensif, mais qui a effectivement cette particularité de se nourrir du sang des petits animaux qu'elle tue pour se nourrir. Alors, cette Transylvanie, donc, elle se trouve effectivement à l'ouest de la Roumanie actuelle, et c'est une région dont on commence à parler dès le XIe siècle de notre ère, donc ça nous ramène vraiment très très loin dans le haut Moyen-Âge, c'est cette période-là où se forme le nom de Transylvanie, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs appellations, Ardeal en roumain, Erdeli, ça c'est en hongrois, qui veut dire au-delà des forêts, et Siebenburgen, c'est très différent là, en allemand. C'est souvent dans les régions d'Europe orientale que l'on a plusieurs noms différents pour désigner donc une région géographique. C'est donc dans cette région que se développe, il va se développer cette histoire du vampire, de Dracula dont on parle ce soir. Donc plusieurs noms pour la Transylvanie. Alors ça vient du latin, Transsilvam, au-delà des forêts. Et Ardeal en roumain, Erdeli en hongrois, Siebenburgen, ce qui veut dire sept citadelles en allemand, et Urdul en turc. On va beaucoup parler de la Turquie ce soir, puisque à l'origine, évidemment, de l'histoire du vampire, à l'origine de Dracula, il y a quand même, et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de faire cette émission, il y a bien sûr l'histoire du vampire lui-même qui était un prince à l'origine, qui a bien existé lui au XVe siècle, un prince de Transylvanie qui s'appelait Vlad Dracul. C'est de ce personnage-là qu'on va parler, prince réputé cruel et qui a donné naissance. On va essayer de voir comment ce soir au mythe de Dracula. Alors, quand je dis mythe, bien sûr, c'est toute proportion gardée, puisque bien sûr, il ne s'agira pas ici ce soir de voir ou de démontrer si les vampires existent, oui ou non, ça c'est une autre affaire, mais essayez plutôt de comprendre les origines historiques, d'abord, géographique, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, et puis essayer de comprendre surtout comment on a pu passer d'un personnage historique à ce personnage, donc le vampire Dracula. Alors, la région de la Roumanie, elle est connue, bien connue depuis les Romains, depuis le 1er siècle de notre ère, c'est une région qui est conquise par l'empereur Trajan au 1er siècle, c'est d'ailleurs pour cette raison que la langue roumaine, à l'heure actuelle, est une langue encore assez proche, effectivement, d'une langue latine, par exemple, si vous voulez dire en roumain, à bientôt, au revoir, ça se dit la revedere. Ça fait vraiment penser la revedere à à une expression de type latine. Ensuite, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, au XIe siècle, c'est la période où va se former la région elle-même, où on commence à lui donner un nom précis, de Transylvanie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, au XIIe siècle, donc on est toujours là dans le Moyen-Âge profond de cette région d'Europe orientale, se forment dans la région trois principautés, c'est-à-dire des régions qui vont être dirigées par des princes. On est dans un monde chrétien, plutôt orthodoxe dans la région, avec donc trois principautés. La première, on l'appelle la Moldavie. La Moldavie, elle existe encore aujourd'hui. C'est cette région qui est située, qui est un pays d'ailleurs, qui est situé à l'est de la Roumanie actuelle, la Valachie, hein, donc la région des Valaques, ça fait partie de l'actuelle Roumanie, hein, et puis donc notre immense région alpestre avec des forêts très sombres que l'on appelle la Transylvanie. Hein. Donc ça se forme au 19e siècle, au 12e siècle, pardon. Et puis au 19e, hein, et on va terminer là le cadrage géographique, hein, de cette mission de ce soir sur Dracula, eh bien au 19e siècle, donc, ces trois principautés vont donc devenir pour la première fois depuis plusieurs siècles indépendantes, hein, à la faveur de la guerre de Crimée, hein, que Napoléon III mènera donc dans l'Est européen. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions, sur d'autres, une autre web radio, comme je l'ai annoncé sur Facebook. Alors ces trois principautés vont s'unifier au 19e siècle, hein, et former l'embryon, hein, de ce qu'est aujourd'hui la Roumanie. Il faut savoir aussi, et dernière chose sur le cadrage géographique, hein, que la Roumanie actuelle, hein, eh bien, n'a pas toujours possédé la Transylvanie donc sur son territoire. Hein, c'est seulement effectivement en 1920, hein, que cette région est attribuée donc à la nouvelle Roumanie, la Grande Roumanie de 1920, hein, celle qui est créée donc par les traités de paix. Hein, la Transylvanie, en tant que province, hein, a été longtemps, hein, eh bien, une région, hein, donc, qui a été sous contrôle, hein, si vous voulez, du royaume de Hongrie. Hein. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors, je remercie au préalable, après ce petit propos introductif, et je m'excuse encore des petits problèmes techniques, hein, que nous avons eu de nouveau, mais j'ai cette fois-ci réussi à fixer le problème, je pense, ça marche bien, là, déjà 10 minutes que nous sommes ensemble, et sans problème. Je remercie au préalable, effectivement, Ingrid, hein, qui a posé une question très détaillée sur le mythe de Dracula tout à l'heure, et j'y répondrai au cours de cette émission. Et je vous rappelle, hein, toutes et tous, que vous pouvez poser vos questions sur le site, hein, de la web radio TerraZen, hein, qui est annoncé sur Facebook, et que je réponds directement aux questions des web auditeurs, hein, bien sûr, et en tout cas c'est ce que je ferai pour Ingrid. Alors maintenant, bah, plongeons-nous un peu, mes amis, au fin fond de cette région qui, sans doute, pour la plupart d'entre vous, demeure totalement inconnue, hein, qu'est donc cette Transylvanie, cette Roumanie donc du XIVe, XVe siècle. Hein. Quelle est la situation de l'Europe dans ces régions-là, à cette époque-là. Donc on l'a compris, on a quelques royaumes qui émergent importants, la Hongrie, la Pologne aussi, tout ça c'est plutôt vers le nord, hein, et puis également tout un tas de petites principautés diverses, hein, qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui donc le sud de l'Europe centrale, hein, et également encore plus au sud, les Balkans. Et tout cela a vécu depuis le 5e siècle de notre ère, sous la férule ou la domination plus ou moins relative donc de ce qui restait de l'Empire romain dans la région, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient. Mais voilà que effectivement, vers le 14e et surtout le 15e siècle, dont on va parler pas mal ce soir, eh bien voilà que effectivement cet empire romain d'Orient va définitivement reculer, hein, et que Constantinople finira par être prise et occupée, hein, par les Turcs. Effectivement, l'Empire ottoman, l'Empire turc, hein, va en fait progressivement se substituer, hein, à l'ancien Empire romain d'Orient pour former, hein, ce qu'on appelle en gros, si vous voulez, la Turquie actuelle. Et c'est un peu de tout ce chaos de guerre extrêmement violente dans lequel nous allons nous plonger ce soir, hein, en cette fin de XIVe siècle et début de XVe siècle. Et c'est là justement, effectivement, bah, que notre personnage, Vlad Dracul, hein, de la dynastie donc des Vlad, va émerger. À l'origine de tout cela, il y a d'abord une dynastie, c'est-à-dire la dynastie de ce qu'on appelle les princes de Valachie. C'est cette région dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Valachie, donc une de ces fameuses provinces, Valachie, Transylvanie, Moldavie, qui forment la Roumanie actuelle. Alors cette dynastie, et là vous allez voir que c'est extrêmement intéressant de le souligner, c'est la dynastie des Draculea. C'est donc, vous voyez qu'il y a une proximité linguistique immédiate avec notre prince des sombres dont on parle ce soir. Alors, cette dynastie, effectivement, des Draculea, s'empare, si vous voulez, du pouvoir en Valachie à partir de l'année 1436. Et c'est le père de Vlad Tepeș, dont on va parler ce soir, qui fonde cette dynastie. Lui, il s'appelle Vlad II, et ses dates de règne vont être de 1436 à 1400. De 1436 à 1447, il est né en 1397 et il mourra en 1449. Alors ce Vlad II, dit le dragon, fonder cette dynastie qui va donner l'origine la légende de Dracula. Alors, en 1431, un peu avant de devenir prince de Valachie, Vlad II, donc le père, est intronisé dans un ordre de chevalerie locale qu'on appelle l'ordre du dragon. Et le dragon, c'est le mot Dracul. Donc dynastie des Draculea, l'ordre du dragon, Dracul, pour donc Vlad II Dracul. Donc on est vraiment là dans les origines même de ce nom-là. Et puis donc, il règne pacifiquement sur la Valachie. Et à partir de 1444, la menace des Turcs commence à se faire jour, effectivement. Puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce qu'il reste des alliés du vieil Empire romain d'Orient, qui est encore là, encore toujours vivant depuis la fin du 5e siècle, commence à céder progressivement sous le coup effectivement des armées des Turcs. Et cette menace turque, vraiment, a pris le contrôle progressivement, si vous voulez, de l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le bassin méditerranéen, le sud, le croissant fertile, comme on dit, commence à remonter maintenant vers l'Asie mineure et à se diriger, d'une part vers la capitale du vieil Empire romain d'Orient, Constantinople. D'autre part, à se diriger aussi et à menacer directement ce qu'on appelle à l'époque la chrétienté. La chrétienté, quand on parle de la chrétienté en cette époque encore médiévale, c'est l'ensemble, des États dits latins, dits chrétiens orthodoxes, qui forment, la vieille Europe de cette époque-là. Ça concerne tout un tas de pays, jusqu'à l'Empire russe, qui est aussi à cette époque-là en pleine formation. Alors, dès 1444, quelques années avant la fin du règne de du père, de notre futur Dracula, cette menace turque vraiment émerge. On pense qu'effectivement, il va rester peut-être une dizaine d'années avant que Constantinople ne cède, que l'Empire s'effondre, et que les Turcs finissent par prendre pied en Europe. Et conquiert progressivement les différents États chrétiens de l'Europe du Moyen-Âge de cette époque-là. Alors, certain nombre d'États vont tenter de réagir, puisque nous sommes en Europe orientale, hein, je précise, il ne s'agit pas de ce qui se passe au même moment dans le Royaume de France ou le Royaume de Grande-Bretagne, où la menace turque, si vous voulez, est quelque peu un peu plus relativisée, même si évidemment, on le sait, un certain nombre de croisades ont déjà eu lieu contre cette région du Proche-Orient, mais vous le savez, ces croisades ne vont durer que 2 siècles, vont créer des États latins au Proche-Orient pendant pas très longtemps, pendant à peu près 2 siècles, 1 siècle et demi, et ensuite les croisades évidemment seront un échec. Ça se terminera par le triomphe total des Turcs, des Ottomans et de leurs alliés, des sultans. Alors, en 1444, effectivement, la Hongrie et la Pologne du roi Ladislas III vont tenter effectivement le tout pour le tout. Et essayer, si vous voulez, de contrer cette menace menant ce qu'on appelle à l'époque une croisade contre les Turcs, pour essayer effectivement d'aider d'une part Constantinople à repousser les armées du sultan, et deuxièmement, essayer tout simplement de sauver ce qui peut peut-être encore l'être de l'Empire romain d'Orient, de l'Empire byzantin. Alors, dans cette croisade, les petites principautés de la région du sud, qui sont directement exposées à cette invasion promise des Turcs, ces petites provinces sont évidemment emmenées dans la coalition, pourrions-nous dire, militaire de l'époque, dont la Valachie, effectivement, de Vlad II. Mais voilà que le sort des armes fait que les armées des princes chrétiens polono-hongrois et de leurs alliés subissent un certain nombre de revers, et en 1447, le front uni des princes chrétiens face aux Turcs se fissure. Et Vlad II décide de faire la paix, tout simplement, avec le sultan, et de devenir un état vassal de la Turquie, triomphante dans la région. Alors il est assassiné, évidemment, puisqu'on considère que c'est une trahison, cette fois-ci, et vous voyez, on n'a pas de carte sous les yeux, mais le mouvement d'enveloppement que cela représente, les armées du sultan traversent le Bosphore, vont encercler ce qu'il reste de l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire Constantinople et sa région, et vont déferler progressivement sur les Balkans et sur les pays du sud, de l'Europe orientale. Donc, et bien sûr, aujourd'hui, nous avons du mal à imaginer tout ce que cela peut être. Évidemment, ce sont des conflits de la fin du Moyen-Âge, extrêmement sanglants, mais aussi une politique assez habile menée par le sultan, qui est une politique de créer des états vassaux, que l'on appellera des banats, que l'on appellera également d'un certain nombre d'autres, des vilayets notamment, d'autres termes de division, de subdivision de l'Empire ottoman en train de naître et de s'étendre en Europe. Par exemple, si un certain nombre de pays des Balkans seront sous suzeraineté du sultan, il faut savoir que par exemple l'Albanie, ce petit état des Balkans tout à fait autonome, dont l'histoire est tout à fait originale, sera un des rares alliés des sultans dans la région. Pareil en ce qui concerne la Bulgarie, par exemple, un autre état de la région, tout proche de la Roumanie, nous aurons une province de Roumélie qui se créera une province totalement artificielle, inventée par les sultans. Donc tous ces états-là vivent, dans une relative autonomie, il faut le dire, sous la suzeraineté donc, et l'autorité de l'Empire ottoman, avec une certaine tolérance en ce qui concerne la pratique de la religion chrétienne, qui, je le rappelle, en tout cas pour cette époque-là, est considérée comme une religion du livre, dite du livre, et donc qui est tolérée, en tout cas dans l'Empire. Alors, bien sûr, tout cela va nous amener à voir ce qui se passe et nous amener directement de plein pied maintenant dans ce qui va se passer et qui va forger en fait la naissance de cette histoire du vampire et surtout de Dracula. Là, je réponds déjà à un élément de la question de Ingrid qu'elle nous a posé tout à l'heure sur le forum. Ingrid qui voulait savoir quelle était la différence entre le Nosferatu, c'est-à-dire le non-mort en langage de la région, et d'un autre côté Dracula, ce personnage alors merci Cédric pour ton petit clin d'œil que tu viens de m'envoyer par SMS. Effectivement, ça marche beaucoup mieux comme ça. Je crois qu'on va garder définitivement ce mode de technique pour les prochaines émissions. Voilà. Alors, pour te répondre donc Ingrid à ta question, effectivement, Dracula, eh bien, c'est ce personnage que l'on voit figurer dans notamment les films des années 60-70, avec notamment Christopher Lee, personnage avec une cape, avec une certaine allure aristocratique. Lui, évidemment, fait référence, et on va le détailler tout à l'heure, effectivement, aux descendants, en théorie, du fameux Vlad III, Vlad l'Empaleur, dont on va parler maintenant. Et Nosferatu, eh bien, c'est un autre type de personnage, ce n'est pas Dracula en tant que tel, c'est vraiment le personnage maléfique, le vampire, que l'on retrouve à la fois dans les films de Murnau du début du XXe siècle, et repris dans le merveilleux film de Werner Herzog dont on parlera tout à l'heure, qui est Nosferatu, avec Isabelle Adjani et Bruno Gantz, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà la différence pour la première partie de ta question entre Nosferatu et Dracula. On peut dire que Dracula est un descendant de Vlad Dracul, quelque part, on va continuer de le détailler, et Nosferatu, c'est le terme pour désigner un vampire. Dracula est un Nosferatu, voilà ce qu'on peut dire, c'est-à-dire le vampire non mort. Alors, en ce qui concerne la suite, on revient un peu là maintenant en survol de nos régions sous domination de cet empire ottoman en pleine expansion. Il faut savoir que, et on l'oublie encore aujourd'hui, que cet effondrement en 1453 de l'empire romain d'Orient, de l'empire byzantin face aux Turcs, va provoquer non seulement cette déferlante, cette invasion en Europe, mais surtout que les armées du sultan vont aller jusque occuper les environs de Vienne à l'heure actuelle. Au XVIIe siècle, si ma mémoire est bonne, Vienne sera assiégée par l'Empire ottoman, qui aura atteint à ce moment-là sa plus phénoménale expansion. À l'extrême ouest, on a l'extension maximale, on le sait, qui n'est pas dans la même période, qui va évidemment jusqu'à l'Espagne, qui est intégralement et jusque justement au XVe siècle occupée et dominée par un morceau de cet empire. Et puis à l'est, effectivement, ça s'étendra à un moment donné jusque aux environs de la ville de Vienne. Ce qui n'est quand même pas rien. On a du mal aujourd'hui à imaginer ce type de conflit qui ne la présence, si vous voulez, de la Turquie en Europe, notamment la présence en Europe orientale de l'Empire ottoman, ne commencera à refluer qu'au XIXe siècle. Fin du XVIIIe, début XIXe. Vous imaginez tout un tas d'États, dont la Grèce, dont la Bulgarie, dont la Roumanie actuelle, dont la Hongrie, qui sera occupée pendant 500 ans, ne l'oublions pas. Tous ces États sont des États vassaux ou occupés par l'Empire ottoman. C'est vraiment le grand traumatisme, si vous voulez, de la période. Alors, notre petite principauté de Valachie, elle va se révolter, en fait. Voilà ce qui se passe. Voilà, en fait, ce que va faire le fils de Vlad II, donc de Vlad Dracul, Vlad III, l'Empaleur. Bon, d'une part, va se débarrasser des assassins de son père, et surtout, va régner de 1447 à 1476. Il est né en 1431 et il meurt donc en 1476. Alors on l'appelle Vlad III Bazarab, Vlad III l'Empaleur, ce qui en roumain donne le nom de Tepeș. Vlad Tepeș, Vlad l'Empaleur, Vlad III l'Empaleur, c'est lui, c'est ce prince qui effectivement à un moment donné, alors que justement, et ça je vous renvoie mes amis à un certain nombre de films dont on pourra parler vers la fin de cette émission, de films récents qui sont d'ailleurs très intéressants sur le plan historique, un moment où effectivement vous le savez sans doute que les règles de l'occupation de la suzeraineté de l'Empire ottoman sur ces états là étaient que régulièrement tous les ans ces états sous suzeraineté ottomane devait fournir à l'Empire, au sultan surtout, un contingent de jeunes garçons et de jeunes femmes pour alimenter, si vous voulez, la cour du sultan, ce qu'on appelle le divan, le diwan, la sublime porte. Tout cela, et cette cour tout à fait extraordinaire qui va s'installer dans la deuxième partie du XVe siècle à Constantinople, qui deviendra Istanbul. Là encore une fois, on est dans une série de plusieurs noms. Le premier nom, le nom antique, le plus ancien, c'est Byzance. Ensuite, c'est Constantinopolis, parce que la ville est fondée par l'empereur Constantin au IVe siècle. Et ensuite, le dernier nom, le nom actuel, c'est Istanbul, qui est, comme vous le savez, la capitale culturelle de la Turquie. La Turquie moderne, sa capitale est en Asie mineure, elle s'appelle, la capitale de la Turquie moderne, c'est Ankara. Alors, tout simplement, Vlad Tepeș ne supporte plus cette suzeraineté, la fibre, nationaliste qui est très forte, l'identité roumaine, déjà à l'époque, l'identité européenne est déjà très développée dans cette région, et donc il refuse d'envoyer tout simplement ces jeunes garçons qui seraient devenus des janissaires dans l'Empire, à la cour du sultan, et les jeunes femmes qui auraient donc terminé comme esclaves de plaisir, pourrions-nous dire, dans le gynécée du sultan, c'est le refus. Et pour bien faire comprendre sultan que désormais c'est terminé et que la province de Valachie ne sera plus suzeraine, lorsque le sultan envoie ses ambassadeurs pour menacer le jeune prince Vlad, il les renvoie en faisant clouer, et les chroniques de l'époque sont assez précises, en faisant clouer avec des clous en fer sur le crâne des ambassadeurs du sultan, leur couvre-chef, vous savez, ces couvre-chefs comment dire, tout à fait impressionnant, hein, que l'on voit sur les gravures de l'époque, hein, des dignitaires de l'Empire ottoman, eh bien, ils reviennent en sang avec donc leur couvre-chef cloué sur leur tête. Vous imaginez le supplice absolument horrible que cela a été, et surtout la stupeur. La stupeur à la cour du sultan de voir ainsi des vassaux pourtant fidèles de l'Empire se rebeller de cette manière. Alors, ça c'est absolument intolérable, et l'empereur, donc le sultan, va préparer une armée terrible, pour punir les Valaques. Et punir Vlad III. Mais justement, ça ne va pas totalement se passer comme le sultan le voulait. C'est ce que nous allons voir, parce qu'entre-temps, va se produire sans doute l'un des plus grands événements du XVe siècle. Vous savez qu'en histoire, on a toujours, nous autres historiens, un certain nombre de dates que l'on aime bien utiliser comme des points de repère. XVe siècle, il y en a quand même deux. La plus connue, et que vous connaissez toutes et tous, c'est 1492. 1492, c'est donc, vous le savez, d'une part la fin de la reconquête par les princes chrétiens de l'Espagne, et notamment de l'Andalousie. Et puis aussi, c'est, vous le savez, toujours cette année-là, la découverte, la prétendue découverte des Amériques par le navigateur Christophe Colomb. Mais au XVe siècle, il y a aussi une autre date qui est un peu parfois oubliée, mais qui est pourtant une date qui va, littéralement provoquer, même pour l'époque, un tollé général dans le monde chrétien, qui est la prise de Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient, de l'Empire byzantin, par les Turcs ottomans. C'est le sultan Mehmet II qui s'en empare. Ses dates de règne sont de 1451 à 1481, Mehmet II, et c'est lui donc qui va emporter ce qu'il reste du vieil empire romain d'Orient, et désormais totalement prendre le contrôle de tout le territoire qu'occupait avant Byzance, et qui sera désormais non plus un empire chrétien, mais un empire musulman, qui sera l'empire donc ottoman. Alors cette nouvelle, la prise de Constantinople, sachez que les chroniqueurs de l'époque nous racontent que les Turcs auraient massacré toute la population dans la cathédrale Sainte-Sophie, ainsi que le dernier empereur, paléologue, qui s'y trouvait. Mythe ou réalité, on ne sait pas, mais le récit de la prise de Constantinople par les Turcs a laissé notamment de magnifiques toiles, peintes au XIXe siècle, qui sont absolument superbes. J'essaierai peut-être d'en mettre quelques-unes en ligne, qui laissent évoquer vraiment l'effroi que désormais laisse planer en Europe le fait que il n'y a plus de rempart contre cette déferlante désormais l'invasion de ce tout-puissant empire ottoman. Les Turcs vont remonter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, progressivement grignoter quasiment toute l'Europe centrale et orientale, y compris les Balkans, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ils iront quasiment planter leur tente au pied des murailles de la ville de Vienne. Vous savez aussi, petite anecdote, que c'est de là que vient la tradition du café et des croissants viennois. C'est assez intéressant de le souligner. Alors, 1453, prise de Constantinople, j'avance un peu car je souhaite particulièrement tenir le temps qui m'est imparti pour cette émission. Donc, et je vois d'ailleurs tout de suite une question qui tombe, une question de Cédric, et ce qui me permettra, Cédric, de répondre à ta question directement, que tu m'as envoyée à 21h35. Et tu me demandes si le château de Vlad est toujours visible de nos jours, mais absolument. D'ailleurs, ça fera partie de la conclusion de l'émission, c'est que ce château a été restauré. Il faut le savoir, hein. Et que aujourd'hui c'est un immense, alors je ne vais pas dire parc d'attractions parce que ce serait tout à fait péjoratif, hein. Mais c'est un vaste lieu, un parc historique, voilà, pourrions-nous dire, hein. Voilà. Mais le château a tout à fait été restauré. Alors bon, là c'est toujours le même débat de savoir si c'est le vrai ou pas le vrai, ou si c'était là ou pas là, mais bon, en tout cas, si tu te rends dans la région, en Roumanie, toi ou d'autres de nos web auditeurs, auditrices, sachez que c'est dans tous les guides touristiques et que c'est effectivement tout à fait faisable. Je n'y suis jamais allé puisqu'il se trouve que la Roumanie, fort curieusement, est un pays, pourtant je suis spécialiste de l'Europe centrale et orientale, c'est le seul pays de la région où je n'ai pas eu encore le plaisir de me rendre. Ça viendra peut-être, je l'espère. Alors, revenons-en à cette invasion, cette prise de Constantinople, hein, eh bien, cela va, quelque part, galvaniser, hein, la résistance des Valaques, hein, de la Valachie. Et de 1453 à 1456, Vlad III va commencer par affermir son pouvoir, hein, va éliminer toute la caste dite des boyards, hein, c'est-à-dire ces nobliaux qui souvent représentaient un foyer éventuellement de contestation, installe un régime de terreur, il s'appuie sur le peuple avant tout. Et jusqu'à la fin de son règne, jusqu'en 1476, eh bien, il va affronter vraiment d'une façon tout à fait redoutable les armées successives que le sultan va envoyer pour punir cette Valachie rebelle. Et c'est de là que vient son surnom, puisque cette grande rébellion, ce grand combat, hein, ces embuscades, hein, vous imaginez, c'est une région très montagneuse, hein, ces embuscades que vont tendre sur les routes les habitants de la Valachie pour prendre au piège, hein, les armées turques, hein, eh bien, ça va aller jusqu'à provoquer quand même 30 000 morts. 30 000 morts, c'est quand même, pour le XVe siècle, un chiffre énorme. Hélas, aujourd'hui, vous me direz, on en a vu, bien sûr, d'autres. Mais 30 000 morts, quand même. 30 000 morts, et surtout, détail absolument terrible, c'est que, et c'est évidemment, vous avez compris, pourquoi Vlad III se surnommait Tepesh en roumain, c'est-à-dire l'empaleur, eh bien parce que Vlad III aura cette manie en quelque sorte de faire empaler les soldats turcs qu'il aura fait prisonniers. C'est-à-dire, effectivement, pour en quelque sorte terroriser l'armée ottomane, terroriser le sultan, il fera mettre sur des pales tous ces prisonniers, des milliers de prisonniers, imaginez ça, au bord des routes, qui mourront de ce supplice du pal. Vous savez très bien, le supplice du pal est d'être en gros assis sur un pieu effilé. Et le pieu évidemment rentre par les voies naturelles, dirions-nous, dans le corps humain, ressort par diverses parties, et évidemment le supplicié meurt dans d'atroces souffrances. Donc vous imaginez sur les routes tous ces suppliciés hurlant, mourant du supplice du pal, par le terrible Vlad, l'empaleur. Alors là vraiment on est au cœur, évidemment, de la légende. En quelque sorte sanglante, hein, de Vlad III, l'Empaleur, hein, Vlad Dracul, hein, Vlad le Dragon, hein, aussi, hein, Vlad, membre donc de cette, comment dire, de cet ordre de chevalerie du Dragon, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, son père, hein, avait été en quelque sorte un des premiers membres, hein. Et puis, bien sûr, eh bien, cet épisode n'a qu'un temps, hein, parce que un homme avec quelques milliers de soldats, vous imaginez ce que représente la petite Valachie de l'époque, hein, adossée à la Transylvanie, c'est une région évidemment où il n'y a pas beaucoup de ressources non plus en matière de troupes, hein, d'armées. Et bien sûr, le sultan, plutôt que de fuir terrorisé face à toutes ces tortures horribles, terrifiantes, hein, imposées par Vlad III, eh bien, le sultan va au contraire être galvanisé, envoyer de plus en plus de troupes, et ce qui se produit finit par arriver, hein, en 1462. Eh bien, suite à des trahisons, au sein même, hein, des princes chrétiens, eh bien, Vlad III est trahi, il est arrêté par les Hongrois, hein, nous disent les sources. Notamment Matthias Corvin, hein. Matthias Corvin, qui est un de ces princes chrétiens de la Hongrie médiévale, hein, qui s'est illustré dans la lutte contre l'Empire ottoman, hein, dans la région. Et il sera, évidemment, vous l'avez bien compris, arrêté, torturé, livré au sultan, hein, voilà, ça se passait comme ça à cette époque-là, hein. Et en 1476, il est décapité, hein, décapité à Constantinople, et sa tête est mise au bout d'une pique et présentée au sultan, hein, pour bien que l'on comprenne que la rébellion des Valaques, eh bien, c'était terminée. Alors, il sera, et là on va terminer avec la partie historique, hein, il sera, ses restes reposeraient au monastère de Snagov, hein, donc en Roumanie, hein, c'est une île qui est proche de Bucarest, hein, la capitale actuelle de la Roumanie. Et puis surtout, ben voilà, c'est à partir de ce moment-là, hein, que la tradition orale, hein, va s'emparer, hein, du mythe, hein, et forger ce mythe de ce qu'on peut appeler la légende sanglante, hein, de Dracula. Hein. En effet. Et c'est là que l'on va voir et qui va permettre également de répondre à l'autre partie de la question de Ingrid aussi, hein, qui est de savoir, hein, eh bien, comment se forge un peu ce personnage légendaire, donc, de Vlad III, l'Empaleur. Parce qu'en fait, ce que nous racontent les légendes, hein, ou les histoires locales, bah, c'est qu'il n'est pas du tout mort. En fait, que en fait, il est damné quelque part pour avoir commis tous ces crimes, y compris contre sa population. Hein. C'est pas parce qu'on tue que des infidèles, hein, entre guillemets. Là, il s'agissait évidemment des Turcs ottomans empalés, mais il a évidemment commis beaucoup de terreurs. Hein. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il avait exterminé les boyards, qu'il avait terrorisé sa propre population. Hein, c'était un prince extrêmement cruel et surtout sanglant. Il faut bien retenir que l'on a la conjonction de l'image d'un personnage lié au sang. Au sang, le personnage sanglant. Et là, eh bien, on a le point de rencontre, effectivement, entre la mystique, pourrions-nous dire, du Nosferatu, du vampire, qui existe depuis très longtemps dans cette région d'Europe orientale, hein, avec toutes ces traditions, on en reparlera tout à l'heure, puisque c'est une partie de la question d'Ingrid sur comment se débarrasser du vampire et pourquoi, quelle symbolique, pourquoi le pieu dans le cœur, la balle d'argent, les gousses d'ail, etc. Tout ça, toutes ces choses-là, hein, sont liées à la tradition de ce personnage fantastique qui est le vampire. Hein. Personnage, le mythe du vampire, l'idée du vampire, ça remonte très très loin. Hein. On fait remonter les premiers cas de non-morts vampiriques, il me semble avoir lu ça quelque part, jusqu'à la période égyptienne, de l'Égypte antique. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de très loin, hein, d'une part, donc de l'Orient, hein, et qui, par différents biais divers et variés, hein, c'est particulièrement cristallisé dans cette région, hein, cette région de légende. C'est une région qui porte à rêver. Hein, quand j'ai mis en ligne une petite photo, une petite peinture représentant un château abandonné dans les Alpes de Transylvanie par une nuit de pleine lune. Ce sont des paysages alpestres, des paysages très, très sauvages, hein, pas du tout industrialisés comme ceux qu'on peut voir dans les Alpes, par exemple, hein, et qui prêtent évidemment à la légende et à la rêverie. C'est tout à fait évident, et c'est d'ailleurs pour ça, hein, et on terminera là-dessus tout à l'heure, hein, pour ça que le Dracula moderne, celui que nous connaissons aujourd'hui, hein, eh bien, tout cela a été magnifiquement écrit dans un superbe roman de la fin du XIXe siècle, hein, écrit par l'Irlandais Bram Stoker. C'est lui, hein, qui va à la fois faire la synthèse entre les mythes, hein, du vampire de l'Europe orientale, de la Transylvanie, de la Valachie, et l'histoire justement de ce prince maudit, Vlad III Lampe à l'heure, hein, condamné à errer, hein, à travers les siècles, et qui en fait lui-même est devenu, bah, tout simplement le prince des vampires, hein, le souverain des forces du mal et des vampires, qui va débarquer dans la grande, dans la belle Londres de la fin du XIXe siècle, de l'époque victorienne. C'est toute l'histoire du roman, hein, de Bram Stoker. Si vous ne l'avez pas lu, chers amis, je vous invite fortement à le lire. C'est un roman tout à fait merveilleux. Alors, cette légende sanglante, cette image sanglante, effectivement, eh bien, c'est la conjonction d'un certain nombre de facteurs. La violence, le sang, le dragon, Dracule, hein, les différentes chroniques orientales de la région, hein, sur le Nosferatu, hein, je vous expliquais tout à l'heure que Nosferatu, ça veut dire vampire, ça veut dire non-mort, hein, la magie, les feux follets, la forêt, les loups, hein, tout cela, hein, toutes ces choses-là, toutes ces légendes, hein, toutes ces histoires que l'on raconte, hein, dans cette région, vont se trouver quelque part en un point de rencontre, hein, que va être effectivement ce que va écrire Bram Stoker donc en 1897. Bram Stoker, donc, c'est un romancier irlandais, hein, né en 1847, mort en 1912, et dont vraiment le roman à succès, hein, est Dracula. On est à cette époque-là dans la grande vague, hein, en Grande-Bretagne, de ce que va être, hein, donc le gothique, hein, le roman fantastique, hein, bon, je vous rappelle, au début de la période, au 19e, c'est Mary Shelley, hein, avec Frankenstein, hein, et donc un peu à un autre bout de la période, toujours dans cette période, cette ère victorienne, hein, bon, bah, c'est effectivement le roman de Bram Stoker, c'est aussi la période de Conan Doyle, hein, la période donc de Sherlock Holmes, etc., et de toutes les histoires fantastiques, hein. C'est un grand thème, hein, du roman fantastique, hein. Pas de science-fiction, pas encore pour l'époque. Science-fiction sera plutôt Jules Verne pour cette période-là, mais le fantastique, vraiment, c'est vraiment notamment, hein, le personnage de Dracula, hein, qu'on retrouvera encore avec Frankenstein et d'autres histoires. Alors, ce que raconte rapidement maintenant, car le temps passe, ce que raconte, hein, Bram Stoker, bah, c'est que Vlad III était très amoureux d'une princesse, qui devait être son épouse un peu plus tard, et que malheureusement cette princesse se suicide, car elle croit que Vlad a été tué lors d'un de ces fameux combats contre les Turcs. Elle se suicide et Vlad, fou de chagrin, va tout simplement se venger sur l'Église orthodoxe, sur les prêtres, hein, et massacrer tout le clergé présent à ce moment-là dans le château. En cela, Il est désormais damné, un prêtre orthodoxe le damne. Il va être damné pour les temps éternels. Et son château s'effondre, il meurt. Donc là, voilà, il y a plusieurs récits hein, sur la mort de Vlad Tepes, hein, donc effectivement trahi par les Hongrois, arrêté, livré aux Turcs. Hein. Aussi, il est mort. Il peut être, bon, il serait mort au combat, ou aussi évidemment cette autre version qui nous fait la transition vers le mythe de Dracula. Hein. Donc, il aurait été maudit et damné à errer désormais comme un Nosferatu. Hein, comme un vampire, à faire de plus en plus de victimes hein, autour de lui pour survivre à travers les siècles en buvant le sang hein, de ses victimes et en se changeant aussi, hein, car c'est une des caractéristiques du vampire. Hein, vous savez que le vampire, le Nosferatu, se change en loup. Hein, il faut le savoir, mais aussi bien sûr en chauve-souris vampire géante hein, pour faire des victimes. Alors c'est ce personnage-là qui va débarquer bah, dans l'imaginaire, hein, pourrions-nous dire, de Bram Stoker, hein, et qui va raconter que effectivement, eh bien, ce prince damné hein, de la Valachie, ce prince cruel du lointain 15e siècle, passé si loin, hein, eh bien, va revenir. En quelque sorte, et va surtout prendre contact hein, à la faveur du souhait qu'il a de tout simplement s'installer à Londres hein, pour étendre, bien sûr, si je puis dire, son terrain de chasse, en quelque sorte, de vampire. Et c'est là qu'on pénètre dans le roman de Bram Stoker, impossible en si peu de temps de tout raconter, et sachez qu'il en gros publie, parce que bien sûr il continue de vivre dans son château de Transylvanie, hein, il fait publier à Londres une petite annonce dans laquelle il demande à vouloir acheter une maison, un agent immobilier, Jonathan Harker, est envoyé dans cette lointaine Transylvanie, cet agent immobilier eh bien, va aller à la rencontre de son client, hein, le fameux comte Dracula, va se rendre compte progressivement qu'il a affaire effectivement à un vampire, un personnage qui ne voit jamais le jour, qui dort dans un cercueil, qui ne se reflète pas dans les miroirs. Hein. Et là, je vous renvoie, mes amis, non plus au roman de Bram Stoker, mais au film hein, Dracula de Francis Ford Coppola, film des années 90, hein, qui, à ma connaissance, est celui qui reproduit le plus fidèlement le roman de Bram Stoker. Hein. Et donc Harker eh ben, se retrouve prisonnier de Dracula dans le château et à un moment donné, lors de ses discussions avec le comte Dracula bien sûr, va laisser échapper un petit médaillon avec la photo de sa fiancée. Hein, et donc qui s'appelle Mina, Wilhelmina, hein, Mina Harker. Et cette photo eh bien, va rappeler à ce prince maudit qu'est le comte Dracula, hein, à l'ancien Vlad Tepes du XVe siècle, la princesse, hein, sa princesse qui s'était suicidée, hein, dont on parlait. Et là, on est vraiment alors, dans le romantisme intégral, puisque bien sûr, il ne va avoir de cesse que de vouloir posséder, bien sûr, la fiancée de Harker, et donc c'est pour cela qu'il va ensuite, autre partie du roman, eh bien, se transporter jusqu'à Londres. Harker, lui, prisonnier dans le château, va réussir à s'échapper. Il va former un groupe d'amis, je n'ai plus le temps, hélas, de le détailler. Et ils vont réussir à vaincre le comte hein, et à le tuer hein, d'une façon rituelle. Et là, je réponds à ta question, Ingrid, directement, hein, puisque c'était l'autre partie de ta question sur... alors, c'est là aussi que les traditions de l'Europe orientale contre les vampires et l'imaginaire de Bram Stoker, si on peut dire, se trouvent en conjonction dans le roman, hein, que pour tuer un vampire, eh bien, effectivement, et tout le monde le connaît, surtout depuis les films de Christopher Lee, hein, eh bien, c'est de planter un pieu dans le cœur du vampire, c'est noir sur blanc dans le roman de Bram Stoker, de lui gaver la bouche de gousses d'ail et de lui couper la tête. Et ainsi, effectivement, il ne devrait plus y avoir de résurgence, parce que la question, évidemment, hein, qui est tragicomique, pour dire, c'est de comment tuer un non-mort, comment tuer quelqu'un qui est dans une situation de mort sans être mort, en fait, quelque part. Hein, un peu comme on pourrait dire comment tuer par exemple un zombie, hein, la mode actuelle des films sur les zombies, hein, les séries comme Walking Dead, hein, bien sûr, vous voyez comment dans Walking Dead on se débarrasse d'un zombie, eh bien, en leur faisant exploser la tête. Hein. Voilà, bon, bah, c'est un peu la même chose, mais de façon plus romancée, pourrions-nous dire, dans notre beau romantisme de la fin du 19e siècle, autour du roman de Bram Stoker. Alors, pour terminer rapidement ce propos, bah, quelques orientations cinématographiques. On l'avait un peu fait aussi quand on avait terminé l'émission sur l'île de Pâques. Et ces orientations bibliographiques sont très très simples. Enfin, bibliographiques, on l'a déjà fait avec Bram Stoker, mais cinématographiques, hein, devrais-je dire. D'abord, c'est le film de Murnau, hein, 1921, hein, Nosferatu. Hein, ou alors, on pourrait me demander pourquoi, mais alors comment se fait-il que les premiers films nous présentent un Nosferatu, et puis ensuite un Dracula habillé par Christopher Lee, et que ça n'est que bien plus tard, j'allais dire dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui avec les derniers films sur les vampires, hein, qu'on nous parle de nouveau de Vlad Tepes, de Bram Stoker et tout ça. Bah, tout simplement, c'est une question de droit, hein, tout bêtement. C'est-à-dire qu'à l'époque de Murnau, même encore à l'époque de Werner Herzog en 79, avec donc le remake en quelque sorte qu'il fait de Nosferatu avec Bruno Ganz et Isabelle Adjani, hein, et Klaus Kinski, hein, ne l'oublions pas, dans le rôle évidemment de Nosferatu, eh bien effectivement on adapte l'histoire de Nosferatu. On parle d'un personnage qui vit dans un château, mais on ne fait pas la référence, hein, à Vlad Tepes, au Vlad Tepes du 15e siècle. Ça vient plus tard, hein, avec Coppola, hein, et également les derniers films, hein, qui ont pu sortir, hein, sur le mythe notamment du vampire, hein, les derniers que l'on a vus, notamment oui, alors je pense à celui-là que j'ai vu moi-même d'ailleurs, c'est Dracula Untold. Hein, excellent, un film réalisé en 2014 par Gary Shore, hein, qui reprend une bonne partie effectivement du mythe, hein, forgé par Bram Stoker, hein, et de la vieille histoire d'Europe orientale qu'on a essayé de cadrer ce soir. Alors aujourd'hui, donc le château, eh bien, et c'est la conclusion, ce sera la conclusion, les dernières secondes qui me restent de notre émission, eh bien, donc effectivement, ce château se trouve en Roumanie, dans l'ouest, hein, donc dans cette région de la Transylvanie. Et effectivement, bon, il évoque, hein, largement, hein, le mythe de Dracula. Bon, il faut un certain nombre d'imagination. Je dis pas que ça fait château en carton-pâte. Il a été évidemment restauré beaucoup au 19e siècle, hein, et tout cela. Effectivement, nous donne quand même un lieu historique, puisque quand même, et c'est ça qui est quand même intéressant et que je souhaite dire en conclusion de cette émission, hein, c'est que à la base de tout cela, il y a un personnage historique particulièrement cruel, violent et sanglant, hein, membre de l'ordre du dragon, qui s'appelle Vlad III l'Empaleur, Vlad Dracul, hein, et donc qui est mort dans des circonstances diverses, puisque les chroniques divergent, hein, et que la légende, hein, quelque part, s'est emparée de cette histoire, hein, et que cette légende a trouvé des points de conjonction avec toutes les histoires étranges, hein, qui existent dans cette région, hein, de Transylvanie, hein, et d'Europe orientale. Toutes ces histoires liés souvent, parfois à des phénomènes naturels, hein, je pense, ce qu'on appelle les phénomènes de feu follet, les phénomènes de petites flammes qui sortent du sol, etc. Il y a beaucoup de choses que moi, je n'étant ni rationaliste, ni un grand mystificateur, ni l'un ni l'autre, j'essaie de toujours trouver une voie moyenne, et je pense que, comme d'habitude, comme je l'ai déjà dit aussi dans la première émission sur l'île de Pâques, je pense que la part du rêve, la part de l'imaginaire et de l'inexpliqué sont des champs absolument passionnants à explorer. Et j'espère que cette émission sur Dracula vous en aura donné envie, en tout cas envie d'aller plus loin. On se revoit donc, on se réentend en tout cas le jeudi 26 novembre à 21h, de 21h à 22h. Et cette fois-ci, on va continuer un peu dans ce cadrage historique d'un certain nombre d'histoires fantastiques ou non d'ailleurs, et je vous emmènerai avec moi, en tout cas du moins je l'espère, à la recherche de l'Arche d'Alliance des Hébreux, l'Arche perdue. On va essayer de voir où se trouve peut-être aujourd'hui cette arche, où est-ce qu'elle se trouvait avant, et tout ce qui gravite autour de cet objet historico-religieux, que vous en conviendrez, est tout à fait fascinant. Voilà, merci à toutes et à tous. Désolé pour les petits problèmes techniques du début, mais qui, je pense, avec cette petite mise en place que j'ai fait, sont définitivement réglés ce soir. Merci encore à toi, Cédric, pour ton sympathique SMS, ta question et surtout ta patience pour développer, comme tu le fais si bien d'ailleurs, les différentes émissions de la web radio Terra Zen. C'était Olivier Burette, et je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt.